l'écoute des pères, l'émission de dialogue RCF sur les pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.
Jean Charmois, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Alors nous avons écouté les pères de la tradition syriaque occidentale, ceux que les conciles œcuméniques ont qualifiés plus tard de monophysisme, mais dont la parole et la sainteté sont tellement proches de nous. On va parler maintenant des autres pères de cette église syriaque, c'est ceux de l'église de Perse.
Oui, alors on en a dit quelques mots dans une autre émission. C'est une tradition syriaque orientale qui s'est coupée du monde occidental grec et romain pour des raisons politiques, puisque c'était la Perse qui était ennemie de l'Empire romain. Et puis il y a des raisons théologiques, puisque les uns ont suivi l'enseignement spirituel de Théodore de Mopsueste et les autres l'enseignement spirituel de Cyril d'Alexandrie. On va écouter, là, on va dire un mot de deux grandes figures qui sont Narsaï et Babaï le Grand. Alors, Narsaï, il est né vers 400 en Irak. C'est un jeune orphelin qui est élevé par son oncle dans un monastère de Kfar Mari, situé en Turquie actuelle. Sur le territoire, c'était le territoire de l'Empire perse. Il a quitté la Perse pour devenir, pendant 10 ans, élève de l'école théologique d'Édesse, dont on a parlé dans une émission précédente. Cette école, qui avait été surnommée l'école des Perses, se consacrait notamment à la formation des cadres des églises chrétiennes, situées en Perse. En 437, Narsaï devient le chef de l'école, l'interprète par excellence des textes bibliques. Et il suit l'enseignement exégétique, enfin de commentaire des Écritures, de Théodore de Mopsueste, le grand maître de l'école théologique d'Antioche. Je rappelle que cet enseignement donne un sens très important au sens littéral, c'est-à-dire très proche de la réalité historique de l'Écriture. Contrairement peut-être à Alexandrie, où on va avoir un sens symbolique de l'Écriture. Narsaï quitte Édesse l'école d'Édesse va finir par suivre l'enseignement de Cyril d'Alexandrie et finalement a été fermée en 489. Donc Narsaï quitte Édesse pour se réfugier en territoire perse à Nisibe, où il se retire dans un monastère, mais l'évêque de la ville vient le retirer de sa retraite et lui propose de reconstituer à Nisibe l'école des Perses. On l'a expliqué déjà dans une émission, et c'est un nouvel établissement qui a suivi donc l'école d'Édesse, qui a attiré une très grande renommée et devient le centre de formation théologique de l'Église d'Orient. Alors, lors d'un concile en 484, l'Église de Perse a confirmé officiellement son adhésion à l'enseignement de Théodore de Mopsueste. Le concile écrit « Notre interprétation de la foi qui nous a été exposée par les 318 évêques du concile de Nicée, à laquelle nous adhérons totalement, est celle qui nous a été présentée par le bienheureux et saint ami de Dieu, Mar Théodore, Saint Théodore, évêque et interprète des divines écritures. Il est juste de l'appeler le docteur des docteurs. Tous ceux qui se sont enrichis ont été dans l'abondance grâce au trésor de ses écrits et de ses commentaires. Ils ont acquis la science de l'interprétation. Grâce à son contact, écrit Narsaï, j'ai acquis une connaissance de l'étude des mots. Son étude a été pour moi un guide dans les écritures. Il m'a élevé à la compréhension des livres de l'esprit. » Alors, il meurt, Narsaï, vers 502 ou 503, à peu près à l'âge de 100 ans.
Alors, Narsaï aurait écrit de nombreux ouvrages dans les domaines de l'exégèse.
Oui, en fait, il utilise une technique, qui est la technique de la poésie, c'est-à-dire que toutes ses homélies étaient écrites en vers, parce que ce qui permettait de les chanter et donc de les retenir.
Donc, on l'avait déjà évoqué.
C'était une technique que Ephrem le Syrien avait mise au point. Et donc, aucun texte en prose ne subsiste de Narsaï. Bon, quelques éléments de quelques thèmes. L'évangile, pour lui, il écrit « Un grand trésor est caché dans les lettres de l'évangile. Celui qui les lit avec une âme aimante s'enrichit éternellement. Pour découvrir ce trésor, Narsaï mobilise l'être tout entier, intelligence, la conscience, l'intellect, l'âme. » Le flot des images poétiques emporte tout comme une incantation, et l'interprétation devient une prière. « Oui, Seigneur, écrit-il, que je sois le compagnon du fils défunt de la veuve de Naïm qui revient à la vie, que se réalise en moi ce qui est dit à la fin de son histoire. Oui, Seigneur, par ta grâce, rends-moi digne avec lui du rendez-vous de ton amour, que ta miséricorde me reçoive lors du jugement comme il fut reçu. » Puisque Jésus rend le jeune homme à sa mère. C'est ça qu'il interprète. Hein. L'épiclèse eucharistique aussi, un sujet qui traverse toutes les pères syriaques. La liturgie chaldéenne, qui est la liturgie de l'Église d'Orient, avec son environnement patristique et mystagogique au langage imagé, rentre dans la dynamique de l'Esprit Saint. Narsaï écrit « Le prêtre se dresse et lève les mains au ciel, le prêtre regarde avec assurance vers les hauteurs, il appelle l'Esprit pour qu'il vienne et célèbre les mystères qu'il vient d'offrir. Si grand pécheur que soit le prêtre, l'Esprit descend à sa requête et célèbre les mystères par la médiation du prêtre qu'il a consacré. » Aussitôt que le pain et le vin sont exposés sur l'autel, ils symbolisent le mystère de la mort du Fils et de sa résurrection, car l'Esprit qui a ressuscité le Christ descend maintenant et accomplit le mystère de la résurrection de son corps. Le sacrement sort de la patène et dans le calice, avec splendeur et gloire, escorté par les prêtres et une grande procession de diacres, des milliers d'anges et de ministres incandescents et spirituels sortent devant le corps du Seigneur et le conduisent. Alors cette métaphore du feu et de l'incandescence exprime bien la rencontre intime avec un Dieu qui est transcendant et expérimenté comme incandescent. Narsaï considère que l'interprétation des natures humaines et divines dans le Christ est rejetée. C'est ce que défendait Cyril d'Alexandrie. Il n'y a pas interprétation des natures. Il y a distinction des deux natures dans les évangiles. Et il écrit « Il a été couché dans une mangeoire, le Christ, et enveloppé dans les langes comme un homme. Et les bergers l'exaltaient de leurs louanges comme un dieu. » Il a été baptisé dans le Jourdain par Jean en tant qu'homme. Le ciel a été ouvert en l'honneur de son baptême comme un dieu. Il a jeûné dans le désert comme un homme et les anges sont descendus pour le servir comme un dieu, etc. Donc on voit bien qu'il n'y a pas interprétation. Pour Cyril d'Alexandrie, Dieu est mort sur la croix et l'homme Jésus est ressuscité. Donc il y a interprétation des deux natures, pas pour Narsaï.
On va évoquer maintenant Babaï le Grand. Il est considéré comme l'un des pères les plus importants de l'Église assyrienne, dont il a exprimé la doctrine sous sa forme classique.
Oui, alors il est né vers 550 sur la rive droite du Tigre, actuellement en Turquie. Il s'était issu d'une riche famille chrétienne de l'aristocratie perse. Il devient élève de l'école de Nisib, qui était dirigé par un petit-fils de Narsaï, suivant l'interprétation de Mopsuès, comme on a expliqué. Hein. Et Babaï a assuré dans l'école un enseignement de médecine à l'hospice pour les malades qui étaient dans un hospice attenant à l'établissement. Il a enfin rejoint un monastère près de Nisib. Ce monastère avait initié un mouvement de réforme visant notamment à rétablir le célibat des moines. Parce que, chose curieuse, dans l'église de l'Orient, le célibat des moines avait été interdit. Ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'islam. Donc des choses assez, assez curieuses. Mais il a rétabli le célibat des moines. Bon. Donc les moines à l'époque vivaient avec des femmes. Bon. Ensuite, en 586, Babaï retourne dans sa région natale et il fonde un monastère-école. Et puis il revient à son monastère d'origine pour en devenir l'abbé. Il expulse tous les moines qui y vivaient maritalement et il impose une stricte discipline d'ascèse, de solitude et de prière. Le roi de Perse, sous l'influence de l'Église syrienne occidentale, qui était qui avait la position de Cyril, qui était hostile à l'Église perse, et notamment l'épouse du roi de Perse, supprime le siège du patriarche oriental, le catholicos, et donc il n'y avait plus de patriarche pour ordonner les évêques. Et Babaï a assuré en fait la direction de fête de l'Église de l'Orient pendant cette vacance. Pendant son pseudo-patriarcat, beaucoup de Perses, de Syriens et de Turcs se convertirent. L'Église du Christ s'agrandit et elle a atteint la Chine, l'Inde et même le pays des Tartares. Et ensuite, bon, après, l'invasion arabe a changé la donne. Alors, les écrits de Babaï le Grand occupaient à l'origine 83 ou 84 volumes, mais seulement une petite partie a été conservée. Babaï se réfère à différents auteurs de langue grecque. Il n'est pas sûr qu'il ait connu cette langue. Mais en tout cas, il avait à sa disposition tout un ensemble de traductions, parce qu'elles étaient très importantes, parce que les écoles d'Édesse et de Nisibe avaient procédé à énormément de traductions du grec au syriaque. Alors, ses auteurs principaux de référence sont les pères de l'église d'Antioche, c'est-à-dire Théodore de Mopsueste, Diodore de Tars, Jean Chrysostome, Éphrem le Syrien, et sur le plan spirituel, un Évagre le Pontique, dont on parlera quand on étudiera les pères de la Philokalie. Alors, ces formulations de Babaï s'écartent assez nettement de l'hérésie nestorienne dont l'église d'Orient a été accusée. En fait, il professe une seule personne du Christ, à la fois Dieu et homme. C'est pas du tout deux personnes comme on a accusé Nestorius. Parce que les termes en syriaque et en grec sont pas tout à fait les mêmes. Il y a le mot personne, le mot nature, le mot hypostase, le mot volonté. Enfin, tout ça est quand même avec des formulations qui sont très, 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 très différentes en grec et en syriaque. Alors, comme Narsaï, il refuse l'interprétation des deux natures dans le Christ, qui est soutenue par les disciples de Cyrille d'Alexandrie. Cette question, d'ailleurs, est toujours en suspens, d'ailleurs, de nos jours, aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, auront du mal à considérer, d'une part, Marie comme mère de Dieu, parce que c'est un terme qui peut choquer, on dira la Vierge, mais on ne dira pas mère de Dieu, et quand on dira, par exemple, que Dieu est mort sur la croix, c'est toujours assez difficile à dire, parce que c'est la doctrine de Cyrille d'Alexandrie que c'est le Verbe de Dieu qui est venu lui-même sauver l'homme en assumant une chair. Donc c'est le Verbe de Dieu qui agit à travers le Christ Jésus. Et donc Babaï va aussi, comme Narsaï, dire, je cite juste le début d'une phrase, « Un est le Christ, fils de Dieu, adoré par tous en deux natures, engendré par le Père selon sa divinité, né de Marie selon son humanité, dans les derniers jours uni dans un corps, ni sa divinité n'est de la nature de sa mère, ni son humanité de la nature de son Père. Les natures sont préservées dans leur qualité, dans la personne unique d'un seul Fils. » Voilà ce qu'enseigne la Sainte Église. Donc on voit quand même des nuances assez importantes.
À l'écoute des Pères, l'émission de dialogue RCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton Père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 7.